Bonjour, Michael Lainé.
Bonjour.
Vous êtes, vous venez aujourd'hui présenter votre dernier ouvrage, hein, L'ère de la post-vérité. Vous êtes maître de conférence à l'université en économie à l'université Paris 8.
Oui.
Vous avez été formé à Sciences Po Bordeaux.
Oui.
Et intervenez à Sciences Po Lille.
Oui.
Vos travaux s'inscrivent dans une démarche critique. Vous analysez les idées reçues, les mythes économiques et interrogez les rapports de l'économie à la société, la morale, les médias. Parmi vos livres les plus récents figurent « L'économie vue des médias »,« Anatomie d'une obsession morale »,« Sous l'emprise des esprits animaux », »,« Essai sur l'anticipation d'investissement des entrepreneurs », ainsi que des titres plus anciens comme « Le marché introuvable » ou « Les 35 mensonges du libéralisme ». Dans ce dernier ouvrage, « L'ère de la post-vérité », qui semble particulièrement d'actualité, paru à la Découverte, vous appliquez votre approche critique un diagnostic de notre rapport au réel, la manière dont les algorithmes, les biais cognitifs, les émotions et la structure même des plateformes numériques redéfinissent ce que nous acceptons comme vrai ou faux, et nous des effets sociaux, politiques et culturels nouveaux. Alors, je vais vous poser quelques questions pour développer, vos idées qui sont très extrêmement riches sur un phénomène actuel qui est justement la façon dont on a l'impression dans le débat public de perdre pied avec les critères habituels de la vérité. Pouvez-vous précisément expliquer ce que vous entendez par post-vérité et en quoi cela dépasse ce qu'on appelle dans le grand public les fake news ou la désinformation?
Oui. Déjà, merci pour l'invitation. La post-vérité, c'est effectivement un terme dont on a déjà entendu parler assez vaguement et, comme souvent avec les termes qui sont familiers, cette familiarité dissimule plus qu'elle ne dévoile. Les médias ont tendu à reprendre la définition qu'a donnée le dictionnaire d'Oxford du terme en 2016, parce que c'est la grande sidération provoquée par la première élection de Donald Trump qui a provoqué en quelque sorte la nécessité de trouver un terme pour désigner, pour rendre compte, pour expliciter finalement les raisons de l'élection à la tête de la première puissance mondiale, d'un mythomane invétéré. Et cette première définition me semble peu opératoire, puisqu'elle oppose les émotions, les opinions, aux faits. Or, une expérience auprès d'internautes français, une expérience assez récente, vous montre que lorsqu'ils sont exposés à des fausses informations anxiogènes en matière d'immigration, une partie d'entre eux se laisse influencer. Et quand cette fausse information est suivie d'un fact-checking issu de sources fiables, ils ne changent que leur connaissance factuelle et pas la conclusion qu'ils en avaient tirée. Donc ce n'est pas tellement une question de fait qu'une question d'interprétation de fait. Donc moi, la post-vérité, la définition que j'en donnerai, puis d'ailleurs, le problème que j'aurai avec le fait de réduire, comme le font très souvent les journalistes, la post-vérité à la désinformation, aux fake news et au complotisme, parce que c'est un peu le pack en général qu'on nous sert dans les médias à chaque fois, c'est déjà, il y a mille manières de se tromper ou de mener des raisonnements fallacieux. Par exemple, où commence la frontière entre l'excès de l'exagération et la désinformation? Qu'en est-il des mauvais cadrages? Qu'en est-il des impensés, des hypothèses implicites, des propos infondés ou spéculatifs, des propos dont on ne peut démontrer ni la vérité ni la fausseté, etc., etc. Sans parler donc de ces raisonnements fallacieux qu'on appelle des sophismes et qui servent beaucoup à nous convaincre de choses très bancales. Donc en fait, très vaste est la panoplie des moyens dont on dispose, dont notre cerveau dispose pour nous convaincre d'idées finalement pas très fiables. Donc la définition que je propose dans le livre, et c'est une véritable exploration de tout ce que cela peut recouvrir, donc c'est vraiment très vaste et un peu vertigineux, et donc c'est bien pour ça qu'il faut un ouvrage entier pour décortiquer tout ça. Donc la définition que je propose, c'est la suivante: ça désigne une ère, la post-vérité, où des proportions considérables d'individus préfèrent la fiction et la vraisemblance à la vérité, pour lesquelles l'image de soi ou du monde importe plus que le monde lui-même, jusqu'à rejeter la science, faire proliférer les peurs irrationnelles et inverser la réalité. Donc c'est un mélange, si vous voulez, de traits cognitifs ou de mentalités collectives qui étaient déjà là, mais qui sont exacerbées. Je développe beaucoup dans l'ouvrage, mais on peut notamment citer le fait qu'on saute plus aux conclusions, les raisonnements sont plus impulsifs, on a plus de dédain peut-être pour les faits, on refoule peut-être plus ses doutes, etc. Il y a plus de dogmatisme et de traits assez nouveaux, voire même nouveaux. L'inversion de la réalité, c'est vraiment le plus spectaculaire, si l'on peut dire, puisque ça va au-delà de la peur irrationnelle. Ça va au-delà de l'excès de l'exagération, c'est une inversion de la réalité. Et oui, on peut parler aussi d'intolérance à l'ennui. L'intolérance à l'ennui n'est pas la même chose que l'aversion à l'ennui. L'aversion à l'ennui, c'est quelque chose d'aussi vieux que l'humanité, certainement. L'intolérance à l'ennui désigne quelque chose de beaucoup plus fort. Pour donner une illustration de ce que je dis, imaginez que vous soyez dans une pièce au mobilier rudimentaire. Donc là, je vous compte une expérience de laboratoire qui a été menée et répliquée plus tard. Imaginez que vous soyez dans cette pièce. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes séparé pendant 15 minutes de votre téléphone portable. La seule possibilité que vous ayez, c'est de vous administrer un électrochoc. Est-ce que vous passeriez ces 15 minutes dans vos rêveries, dans vos pensées, poursuivant le fil de quelques souvenirs ou de quelques imaginations, ou bien est-ce que vous administreriez un électrochoc? Et il se trouve qu'en moyenne, les participants à l'expérience administrent un électrochoc au bout de 6 minutes. Ils préfèrent la douleur à l'ennui. Je précise, pour donner une idée de l'expérimentation, que dans une phase de test de l'expérience, ils avaient jugé l'électrochoc désagréable. Donc ce n'est pas par curiosité qu'ils s'administrent un électrochoc. Hein, c'est vraiment parce que l'ennui leur est intolérable. Et cette expérience d'origine, donc, qui a été menée en 2014, a été répliquée en 2023. Et cette fois-ci, c'est plus quelque chose comme 51% donc une majorité, qui manifeste cette intolérance à l'ennui, mais 89%. Donc c'est a priori, on est fondé à penser qu'il s'agit d'un phénomène qui s'aggrave avec le temps. Et l'intolérance à l'ennui, ça peut sembler innocent, dit comme ça, mais ça a eu des conséquences sur nos raisonnements. Puisque, évidemment, si l'on se trouve face à des réflexions longues, complexes et nuancées, elles vont rebuter, on va moins les comprendre. Et donc, on accroît les chances de succomber à quelque idée fallacieuse ou à quelque lubie ou fantasme.
Alors, c'est intéressant parce que, en effet, vous montrez d'emblée hein, le lien entre la post-vérité et au fond, les déterminants psychiques ou psychologiques sur lesquels elle s'ancre. On y reviendra tout à l'heure. Il y a un autre enjeu sur lequel vous insistez aussi, qui est lié à cette question de l'ennui. Au fond, c'est la façon dont les réseaux sociaux, notamment les plateformes diverses, sont là pour précisément nous empêcher de nous ennuyer. Et donc, se pose immanquablement la question des algorithmes. De ce point de vue-là, quel est le rôle des algorithmes? Et est-ce que ce sont, vous y avez un peu répondu, mais j'aimerais qu'on y revienne, est-ce que ces algorithmes sont le déclencheur de l'ère de la post-vérité ou l'accélérateur de cette ère?
Oui, c'est, je pense, la démonstration que je mène dans l'ouvrage pour dire que ce basculement progressif des mentalités collectives est dû aux algorithmes. Alors, attention, les algorithmes, ce sont donc, pour clarifier les choses, les instructions qui vont structurer tout le cyberespace, Internet comme les médias sociaux. Et donc, ce n'est pas un déterminisme technologique, j'insiste là-dessus, puisque la façon dont ils sont conçus, ces algorithmes, ça répond à une finalité qui est une finalité économique. Ces algorithmes sont conçus pour maximiser les revenus publicitaires des entreprises qui en sont les autrices. Par-delà les différences des algorithmes, évidemment, l'algorithme de X n'est pas l'algorithme d'Instagram, qui n'est pas l'algorithme de TikTok, qui n'est pas l'algorithme de Google, de YouTube. Et évidemment, par-delà la différence, il y a quand même une logique commune qui unit ces algorithmes. C'est pour ça qu'on peut parler de les algorithmes de façon vague en général, parce que c'est cette logique commune-là qui va avoir beaucoup de répercussions. Et cette logique, quelle est-elle? Pour maximiser les revenus publicitaires, les entreprises ont conçu leurs algorithmes de telle sorte à ce qu'ils optimisent les chances d'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'engagement? Qu'est-ce que c'est que cette optimisation? Il s'agit de faire en sorte que les utilisateurs et utilisatrices interagissent avec le contenu proposé et le plus longtemps possible. Et ça, ça biaise le contenu. Hein. Ça veut dire que les algorithmes ne sont pas faits pour acheminer le meilleur contenu, le contenu le plus pertinent, le plus intelligent. Mais du fait de cette nécessité de provoquer en nous l'engagement, cela va biaiser les données dans deux directions. Une première direction qui est pour nous plaire. Les algorithmes vont mettre en avant ce qui nous conforte dans nos croyances quand nous en avons. Il va mettre en avant du contenu qui nous dit finalement ce qu'on souhaiterait croire. Et là, on se retrouve aux prises avec le désir. Et la deuxième direction, l'algorithme va être biaisé en faveur d'un contenu qui provoque en nous des émotions incontrôlables. Puisque c'est à ce moment-là qu'on s'engage, c'est plus fort que nous. Et ces émotions incontrôlables, typiquement, sont la peur, l'indignation, la colère. Qui peut résister à ces peurs? Personne, ou très peu. Et cela, l'algorithme l'a très bien appris, puisqu'il y a une intelligence artificielle qui interprète toutes les traces numériques que les utilisateurs et utilisatrices laissent bien malgré eux derrière eux. Et à tel point que l'intelligence artificielle, depuis longtemps déjà, a été capable de dresser de nous des portraits types plus fidèles que ceux que sont capables de faire nos proches. Ça, c'est une étude qui a été menée déjà en 2015 sur l'algorithme de Facebook, l'intelligence artificielle, hein, dans laquelle les individus eux-mêmes se reconnaissaient plus dans les portraits faits par cette intelligence artificielle que dans ceux faits par les proches, sauf les conjoints, à l'époque. Avec les progrès énormes de l'intelligence artificielle, même si on parle beaucoup d'autres types d'intelligence artificielle à l'heure actuelle, qui sont les modèles d'IA dégénérative ou de LLM, c'est autre chose. Mais en tout cas, il est quand même permis de penser qu'aujourd'hui, ces algorithmes ont une connaissance très intime de nous-mêmes. Et donc, ils sont à même de nous proposer un contenu biaisé. Donc, pas seulement donc, en faveur de nos croyances, mais aussi, notamment quand on n'a pas de croyances, mais aussi quand on peut avoir des croyances qui sont compatibles avec ce type de contenu, du contenu clivant et anxiogène, puisque c'est ça qui va susciter certaines émotions. Et quand même, un dernier point sur lequel je souhaiterais insister dans cette présentation, c'est que nous nous voyons toujours, je dis, là c'est un nous de généralité, donc je m'inclus dedans, évidemment, hein, à aucun moment dans l'ouvrage, je n'ai un jugement moral ou un procès d'intention, je mène vraiment une analyse causale. Donc nous avons tendance à exagérer notre esprit critique, nos facultés de résistance. Je vais prendre deux statistiques qui, à mon sens, illustrent bien cela. C'est que, d'ores et déjà, on peut dire que lorsque l'on tape une requête sur Google, 70% des clics concernent les 5 premières suggestions. Vous voyez, on pourrait se dire, oui, mais nous sommes dotés d'un esprit critique qui fait qu'on choisit très soigneusement le résultat de la requête qui est mis en avant par l'algorithme. Non, 70% concerne les 5 premiers résultats. Et quant à YouTube, 70% des vidéos sont visionnées sur suggestion de l'algorithme. Donc nous avons, en fait, nous tendons à nous illusionner beaucoup sur la solidité de nos défenses critiques.
Oui, alors précisément, juste pour approfondir ce point-là, est-ce que les algorithmes, du coup, les algorithmes jouent-ils un rôle de déclencheur ou d'accélérateur? Parce que c'est un peu la question. Est-ce que, au fond, sans les algorithmes, pour le dire autrement, est-ce que sans les algorithmes, l'ère de la post-vérité pourrait exister?
Je ne pense pas, même si les algorithmes vont exacerber un certain nombre de travers. Puisque, en fait, pour qu'ils soient efficaces, ces algorithmes, ils vont s'appuyer sur les biais cognitifs que nous partageons tous à des degrés divers, mais que nous partageons. Donc, c'est ce qui fait la clé de leur efficacité. Donc, ça va exacerber un certain nombre de choses qui existaient déjà auparavant. Mais ça va aussi... Donc, déjà, l'exacerbation, ce n'est déjà pas innocent. Ça a déjà des répercussions, puisque... Là, j'analyse bien l'évolution des mentalités collectives. Donc, même si chaque individu pris isolément n'est pas nécessairement influencée par l'algorithme. En tout cas, au niveau des masses, statistiquement, ce qu'on peut constater en l'espace juste de 20 à 25 ans, puisque c'est le temps qu'il a fallu au cyberespace pour être omniprésent. Et j'insiste aussi sur le fait que l'influence du cyberespace déborde le cyberespace, puisqu'il a été prouvé que les journalistes français se servent de X comme d'une sorte de sismographe de l'actualité, si bien que toute hausse des tendances sur X accroît les probabilités que ça soit traité dans les médias traditionnels. Donc il ne faudrait pas, je pense que ça serait se tromper que de se dire ou de se focaliser au sens très strict dans ce qui se passe sur les médias sociaux, mais il faut bien voir que l'influence déborde largement sur les médias traditionnels. Donc voilà, c'est un mélange de choses exacerbées, alors qu'il faudrait les combattre, notamment un biais qui est vieux comme la consommation de médias, qui est l'exposition sélective, et qui a été très bien étudié en sciences de l'information et en sociologie, hein, qui veut qu'on se tourne spontanément vers des sources d'information avec qui on peut partager des principes, des valeurs, voilà, on est en accord sur les grandes lignes argumentatives. Ça exacerbe ça, alors qu'il faudrait trouver un moyen plutôt de combattre ce biais, mais il y a des choses assez neuves aussi.
Et alors, pour mener votre démonstration, vous vous appuyez, et on le voit dans votre la manière dont vous menez justement votre argumentation, sur la psychologie, les neurosciences, l'économie des émotions. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez justement expliquer comment, au fond, ces disciplines vous aident à éclairer le phénomène sur lequel vous écrivez, c'est-à-dire oui. Justement la post-vérité.
Bien, je pense que de ce point de vue, j'ai toujours voulu faire preuve de pragmatisme. Je crois qu'il faut s'intéresser à toute discipline qui étudie le fonctionnement de l'esprit humain et des émotions. Et c'est pour ça que dès le début de ma thèse, en 2010, j'ai opter pour une optique pluridisciplinaire. Je crois qu'il n'y a aucune discipline qui a le monopole des analyses sur le fonctionnement de l'esprit humain, et qu'au contraire, on a tout intérêt à croiser les différentes champs de recherche qui ont tous des choses à nous apporter. Et d'ailleurs, ça fait depuis plus de 50 ans maintenant que la psychologie et l'économie s'hybrident très fortement. Il y a une interpénétration croissante des deux disciplines, et pour de très bonnes raisons, à mon avis, et on y gagne en compréhension scientifique du fonctionnement de l'esprit humain.
Et donc, vous parlez beaucoup justement de la peur, de l'ennui, vous mobilisez aussi les concepts de la psychanalyse, le surmoi, l'idéal du moi. Est-ce que vous pourriez peut-être rentrer un peu plus dans le détail, justement, en donnant un ou deux exemples de la façon dont vous mobilisez justement les instruments d'autres sciences pour éclairer votre enquête?
Oui. Alors, je pense que déjà, au cœur de pourquoi est-ce qu'on bascule dans la post-vérité, donc là, j'ai parlé, désolé, c'est l'économiste qui va venir avec ses grilles de lecture, pour l'instant, j'ai parlé de l'offre, hein, les entreprises qui conçoivent les algorithmes. Parlons maintenant de la demande, puisque évidemment, la post-vérité, si elle intervient, c'est parce qu'il y a aussi une demande de rejet de la vérité. Pourquoi? Et donc là, c'est une grille de lecture plus psychanalytique et psychologique qui va intervenir, puisqu'il me semble qu'il y a en chaque individu trois besoins psychologiques fondamentaux qui sont largement inconscients. Un premier besoin qu'on pourrait appeler un besoin de vérité en ce qu'il conditionne le succès de nos décisions. Un besoin de sens qu'on peut appeler un besoin de sécurité cognitive, puisqu'un monde qui est doté d'un sens est plus rassurant. Et un besoin d'affection qu'on peut décliner en amour propre et en besoin d'attachement au groupe. Le fait de se sentir membre d'un groupe réchauffe l'âme finalement et nous procure cet amour propre dont on a tant besoin. Alors comment est-ce que ça va intervenir? Parce que ces trois besoins, on peut comprendre assez vite qu'ils sont partiellement incompatibles. Et justement, ce que je démontre, je pense, dans le livre, c'est que les algorithmes vont s'adresser en priorité à nos besoins de sens et à nos besoins d'affection. En priorité, ça veut dire que même s'il y a la priorité à ces deux besoins, le besoin de vérité est toujours là, un petit peu en sourdine, d'où la complexité des phénomènes. Hein. C'est pour ça que quelqu'un qui mène en général des raisonnements très biaisés ou même qui peut être totalement englué dans des réalités alternatives, de temps en temps, il va avoir des raisonnements très pertinents et très intelligents. En fait, quand on réfléchit avec l'objectif, hein, commandé par ses besoins, Un objectif qui ne serait pas celui de rechercher la vérité, on peut très bien, magnifiquement, y arriver. Mmh. Dès lors que, finalement, la raison, pour bien comprendre les mécanismes psychologiques ici qui sont en œuvre, la raison, et c'est un beau lapsus d'ailleurs, quand on parle de psychanalyse, la raison est un formidable outil qui permet d'être très efficace. L'intelligence, appelons ça comme ça pour simplifier, ça permet d'être très efficace, mais tout dépend de l'objectif que l'on poursuit. Et quand l'objectif que l'on poursuit en priorité, c'est de s'aimer soi, ou bien de sauvegarder finalement le sens que l'on a donné, ou alors d'arrêter la réflexion dès lors qu'on trouve un sens satisfaisant, au lieu de continuer à creuser, c'est là où on peut rejeter la vérité. Je vais donner une illustration d'une étude, cette fois-ci, psychologique, qui tend à le montrer. Une étude de 2023, assez récente, et le protocole était très bien conçu. Et il montre la chose suivante, c'est que il se joue dans l'esprit de chacun un conflit cognitif, sans qu'on en ait conscience, entre, d'une part, le souci de la réputation, et d'autre part, le souci d'être dans le vrai. Et donc, il y a ce conflit cognitif qui altère fortement notre discernement, notre capacité à dissocier, enfin, à distinguer le vrai du faux. Et cette étude a pu montrer que lorsque l'on se pose la question typique des réseaux sociaux, est-ce que je partage ce contenu ou pas ? Eh bien, le simple fait de se poser la question, ça ne préjuge pas de la réponse naturellement, le simple fait de se poser la question active dans notre esprit ce conflit cognitif, et le résultat, c'est que nous sommes 18% moins aptes à discerner le vrai du faux. Et ceci, quand on se pose d'abord la question de la vérité ou de la fausseté, avant de se poser la question, est-ce que je partage ou pas ? Mais quand l'ordre des questions est inversé, quand on se demande d'abord, mais est-ce que je partage ou pas, avant de se demander, mais attends quand même là, c'est vrai ou c'est faux ? Là, c'est 35% de discernement en moins. Évidemment, on parle sur des masses d'individus, donc ce n'est pas chacun pris individuellement, mais quand même 35% sur une population, c'est énorme et ça peut tout à fait influencer la société.
Oui, c'est très intéressant parce qu'au fond, on voit bien là comment entre en concurrence, vous l'avez dit, hein, le besoin de vérité, le besoin de sens et le besoin affectif. Et alors, précisément, il semblerait que le besoin de sens et le besoin affectif convergent pour créer des phénomènes dont vous traitez et que sont les bulles cognitives.
Oui.
Alors, est-ce que vous pourriez justement expliquer comment ces bulles cognitives fonctionnent et justement participent à produire cette post-vérité.
Oui. Alors, ce que j'ai appelé, donc pour simplifier dans l'ouvrage, bulle cognitive, c'est la réunion de deux termes scientifiques qui sont la bulle de filtre, hein, le fait que nos moteurs de recherche filtrent le contenu et nous donnent en priorité du contenu qui nous conforte dans nos croyances, donc bulle de filtre, et l'addition de ça et de ce qu'on a appelé les chambres d'écho, le fait que dans notre usage des médias sociaux, on s'apparie avec des gens qui pensent comme nous. Donc la réunion des deux engendre une formidable bulle cognitive où effectivement on est de plus en plus exposé à des informations qu'on appelle congruentes, c'est-à-dire qui vont dans le même sens. Et quand on pousse cette logique à l'extrême, puisque c'est toute la logique des algorithmes hein, qui incite à ça, poussé à l'extrême, on peut très bien ne plus être confronté à des façons de penser différentes. Et quand on n'est plus confronté à des façons de penser différentes, on ne les comprend plus. D'où la polarisation des sociétés, qui est un phénomène mondial autant que je sache. Hein, ce n'est pas seulement limité au Brésil, à l'Inde, aux États-Unis, mais aussi la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Suisse, la France, la Grande-Bretagne, etc. C'est devenu un phénomène mondial. Alors la polarisation, on peut se dire que finalement ce n'est pas bien grave, que notamment sur des questions politiques, économiques, il y a souvent eu des débats enflammés et des désaccords très importants. Quand on étudie la polarisation aujourd'hui, on voit que ça va bien au-delà de ça. Certes, il y a donc cet aspect-là. Hein, on est capable, pour reprendre quelque chose qui est d'actualité, d'accuser un chercheur très reconnu, qui est le spécialiste mondial de l'évasion fiscale, on est capable, sans preuve et sans démonstration de fond, de l'accuser de militantisme d'extrême gauche et de volonté de mettre à bas l'économie française. Bon, donc c'est pas seulement cet aspect-là qui, après tout, ça existait déjà auparavant. Non, ce qui est plus déroutant, c'est que cela va jouer très fortement sur l'estime qu'on a de ceux qui pensent différemment. Donc, de plus en plus, celui qui pense différemment est perçu comme hypocrite, mesquin, peu digne de confiance. Et ça va jusqu'à influencer l'attirance physique que l'on a pour cette personne. Donc, la polarisation qui se renforce partout est, à mon sens, un des effets délétères de cette généralisation de la logique de l'engagement qui est commune à, voilà, à tous les réseaux sociaux et à Internet. Alors, pour vous en donner une illustration, par exemple, sur YouTube, l'algorithme met trois fois plus en avant les vidéos critiques du VIAC en langue américaine hein, que les vidéos qui vont reprendre ces enseignements. Donc, c'est déjà très problématique. Il y a, alors, puisque ça fait quand même partie du problème, il y a une prime à la désinformation. Hein, sur Internet et les réseaux sociaux se vérifie tous les jours ce qu'on appelle la loi de Brandolini, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de temps pour réfuter des rumeurs ou des idées absurdes et infondées, 14 heures en moyenne sur X, que à confirmer des idées vraies, hein, 2 heures, ce qui fait que les idées absurdes, infondées, ont toujours un temps d'avance, en sachant qu'en plus, la demi-vie des tweets est de 92% est inférieure à 1 heure. Hein. D'ailleurs, 59% des tweets ne sont pas lus, on s'en tient au titre. Donc il y a un raisonnement beaucoup plus impulsif et quand on saute aux conclusions, hein, évidemment, quand on est dans un environnement plus impulsif, et notamment là-dessus, il y a des études en neurosciences et en psychologie qui sont passionnantes sur la confiance. La confiance, qu'est-ce que c'est, hein? Donc on a plus confiance quand on raisonne en ligne. La confiance, c'est ce qu'on appelle une métacognition, c'est-à-dire une cognition au sujet d'une cognition. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on raisonne, en tâche de fond de notre esprit, sans qu'on en ait forcément conscience, on essaie de savoir si on peut se fier à notre propre raisonnement. Et cette évaluation de la fiabilité de notre propre raisonnement, c'est ça qu'on appelle la confiance. Or, la confiance est extrêmement biaisée, et plus on manque de temps, plus on a confiance dans le raisonnement. Et à l'inverse, plus on réfléchit, plus on doute. Or, tout va très très vite sur Internet. Microsoft est connu pour avoir dit que la capacité d'attention moyenne d'un internaute était de 8 secondes. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça dit quand même quelque chose. Le temps de lecture moyen d'une page web, déjà au début des années 2000, était de 20 secondes. C'est bien moins de temps qu'il n'en faudrait pour le lire jusqu'au bout. Donc, il y a une élévation du niveau de confiance. Or, la confiance agit comme une formidable protection contre la remise en question et contre le doute. Et des expériences vous montrent, en psychologie, que lorsqu'on manipule la confiance, à ce moment-là, on va manipuler, parce que la confiance n'est pas qu'un enregistrement passif de la qualité de nos propres réflexions, ça influence nos réflexions ultérieures. Donc, quand on manipule la confiance, ensuite, on recherche moins d'informations, on les interprète moins avec moins de soin, on saute plus en conclusion, on s'appuie plus sur des stéréotypes et des clichés, et donc là, on peut vite prendre pour pertinentes des idées infondées, spéculatives, absurdes, farfelues, etc.
Vous décrivez bien le lien, au fond, entre le fonctionnement des algorithmes et l'altération de nos capacités à raisonner. En tout cas, vous montrez qu'il y a un effet de l'un sur l'autre. Oui. Et vous associez aussi ces phénomènes, qui sont des phénomènes rationnels, enfin, d'opérations rationnelles, ouais, émotionnelles et de croyances. Vous associez cela avec l'accroissement de l'importance des mouvements d'extrême droite ou des mouvements, oui, populistes. Comment vous décririez ce lien, justement, entre la post-vérité, oui, et ces mouvements d'extrême droite et populistes?
Oui. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent qu'une grande partie de l'essor mondial des partis d'extrême droite, puisque ce n'est pas cantonné qu'à un seul pays, hein, c'est un phénomène qu'on peut dire raisonnablement mondial. Hein, si on compare par exemple les élections européennes de 2009 à celles de 2024, on voit que dans tous les pays sauf trois, il y a eu un doublement des scores de l'extrême droite. Et encore, dans les trois en question, il y a eu un léger effritement. Donc on ne peut pas dire que... Vous voyez, mais c'est valable aussi en Inde, au Brésil, vous voyez, en Argentine, aux États-Unis. Il y a une vague mondiale. Et c'est en partie lié, en grande partie, par-delà la diversité des contextes politiques, économiques, culturels et sociaux, qui ont toujours leur importance, mais par-delà cette diversité, ça s'explique par les biais des algorithmes, en grande partie. Alors pourquoi? Mais déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'engagement, il y a une logique qui est celle de mettre en avant un contenu qui va susciter des émotions incontrôlables, la peur, l'indignation, la colère. Or, il a été prouvé que lorsqu'on est plongé dans un tel bain émotionnel à la longue, évidemment, ça ne se fait pas en une fois, ça ne se fait pas au bout d'une semaine, d'un mois, etc., mais à la longue, quand c'est notre bain émotionnel, on tend à trouver les idées d'extrême droite plus convaincantes. Par ailleurs, il y a d'autres phénomènes en jeu qui élèvent le niveau des peurs sur Internet. Internet et les réseaux sociaux ont largement remodelé nos horizons d'attente. Nous vivons dans l'illusion de l'imminence de l'événement. Et là, c'est très net. Nous avons en moyenne, hein, nous consultons notre téléphone pour 221 tâches par jour. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de la fébrilité. Il doit se passer quelque chose. Et la fréquence d'usage des réseaux sociaux est fortement corrélée au stress. Donc, il y a une élévation générale du stress, mais aussi, c'est le fonctionnement même hein, des réseaux sociaux, puisqu'on entre dans un univers de comparaison permanente où on est au surplus déchiré entre la volonté de se montrer sous son meilleur jour et celle d'être authentique. Ce qui ne peut que faire monter la dépréciation de soi et l'anxiété. Il y a par ailleurs le fear of missing out, hein, l'angoisse suscitée par le fait de louper une information relative à nos réseaux, à nos amis, etc. Ça aussi, c'est très bien documenté. Donc, nous avons diverses causalités numériques en jeu. Il y a d'ailleurs le développement de la cyberchondrie. Hein, dès lors, les résultats des requêtes sur les moteurs de recherche tendent à exagérer les maladies graves. Hein, quand on tape des symptômes bénins, il y a très vite une escalade et la probabilité d'obtenir des indications de maladies graves est très largement décorrélé de la probabilité réelle de survenue de la maladie. Donc, il y a tous ces phénomènes-là, et la peur est le principal terreau d'extrême droite. J'insiste sur le fait que je parle ici de la peur comme inspiratrice de pensée, comme cause de pensée, et non pas de la peur comme conséquence d'un long raisonnement réfléchi. Hein, parce que ce n'est pas la même chose que, par exemple, l'éco-anxiété. Donc, il y a ce biais-là. On peut prouver aussi qu'il y a un biais envers les informations qu'on appelle à valence négative, c'est-à-dire qui sont connotées négativement, en fait. Par exemple, sur X, il y a un biais avant même le rachat par Musk de 26% pour les messages. Il y a une amplification empirique aussi des messages d'extrême droite. Donc là, au-delà de ces raisons théoriques bien documentées dont je vous ai parlé. D'ailleurs, oui, il est prouvé également que, avant de parler des études empiriques, il est prouvé également que une fréquence d'usage des réseaux sociaux incline à avoir moins d'empathie, non seulement pour les adultes déjà formés, mais aussi pour les enfants et préadolescents qui sont en période de formation. Et l'empathie, donc la capacité à ressentir les émotions d'autrui, c'est quelque chose qui s'apprend. Et quand on passe plus de 5, 7, 8 heures par jour derrière un écran, à interagir avec les autres derrière un écran, donc c'est un apprentissage qui est fortement perturbé, puisqu'on a besoin de le faire de visu, cet apprentissage-là. Donc, une étude américaine, déjà du début des années 2010, montrait qu'il y avait une chute de l'empathie de 40%. Mais ça se comprend très bien, puisqu'on est habitué, les préadolescents s'habituent très vite sur les réseaux sociaux à des relations un peu factices, sans risque émotionnel, où on peut ghoster les gens très facilement dès lors que ça devient émotionnellement dangereux. Et par ailleurs, le fait d'être entre les rangs à l'ennui fait qu'on passe moins de temps à développer son monde intérieur, sa richesse intérieure, ce qui est pourtant indispensable. L'introspection est indispensable au développement de l'empathie. Il faut pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour avoir une chance de ressentir ce qu'il peut ressentir. Donc, un dans l'autre, moins d'empathie. Mais alors, moins d'empathie, ça aussi, ça incline à se montrer intolérant et plein de préjugés vis-à-vis des gens qui ne font pas partie du groupe. Donc là, on voit tout de suite vers quel genre de formation politique cela mène. Donc, maintenant, les preuves empiriques. Frances Haugen, la lanceuse d'alerte de Facebook, a montré que 65% des utilisateurs qui avaient rejoint un groupe néo-nazi l'avaient fait sur recommandation de l'algorithme. David Chavalarias et son équipe, hein, en multiples articles, ont montré qu'il y avait, lorsqu'on se situe hors abonnement, vous savez que sur X, anciennement Twitter, il y a deux façons de recevoir du contenu. Soit il y a des profils que l'on suit, et donc là, il y a bien le côté amplification des croyances préalables dont je parlais, mais il y a également cette deuxième logique, cette fois-ci, c'est pour les profils non suivis. Ça concerne entre la moitié et un tiers des contenus auxquels on est exposé. Et là, l'amplification de la parole extrême droite, elle est monumentale, quel que soit notre bord politique, qu'on soit centriste ou de gauche ou de simple droite classique, il y a amplification de la parole extrême droite. Par ailleurs, la veille de l'élection présidentielle de 2016 de Donald Trump, si vous tapiez sur YouTube le mot de recherche ou Trump ou Clinton, qui était son adversaire, 80% du contenu qui vous était suggéré par l'algorithme était pro-Trump. Si j'en reviens maintenant à l'expérience de laboratoire par laquelle on a débuté cet entretien, où il était question, vous vous souvenez, de fake news anxiogènes en matière d'immigration, où les gens, suite à un fact-checking, vont modifier leurs connaissances factuelles, mais pas la conclusion qu'ils en ont tirée, on comprend bien que ça favorise aussi l'extrême droite. D'ailleurs, ça fait au moins depuis 2016 que les principaux sites d'informations politiques sur Internet hein, ceux qui ont le plus d'audience, ceux qui drainent le plus de vues, c'est 7 ou 8 sur 10 en fonction des années, donc c'est énorme, sont des sites d'extrême droite. Donc dès lors qu'on essaie de s'informer en dehors des médias mainstream, on a toutes les chances de tomber sur des médias d'extrême droite. Donc je pourrais développer un peu plus encore, mais j'en parle dans le bouquin Les preuves empiriques, mais je pense que là j'en ai déjà donné pas mal. Et maintenant venons-en, oui, parce que là aussi c'est important, et pourquoi est-ce que c'est particulièrement caractéristique de la post-vérité, c'est que je pense pouvoir démontrer dans l'ouvrage, et là je vais le faire rapidement ici, mais je renvoie à l'ouvrage pour des preuves pleinement convaincantes, puisque c'est toujours plus convaincant à l'écrit, on a plus le temps de développer sa pensée. Je pense pouvoir démontrer que le discours de l'extrême droite repose sur l'inversion systématique de la réalité. J'insiste bien là-dessus, inversion systématique. Donc il ne s'agit pas d'excès et d'exagération, comme cela peut arriver à tout le monde. Il ne s'agit pas d'erreur. Évidemment, quand on éprouve des passions politiques, on peut être dans l'excès, on peut même être dans le sectarisme, ce qui est un problème, et personne n'a le monopole du sectarisme ou de l'excès et de l'exagération, évidemment. Là, l'inversion systématique de la réalité. Je vais prendre quelques illustrations pour bien faire comprendre. Ce qui est le programme, une des mesures phares du Front National, devenu Rassemblement National quasiment depuis l'origine, c'est la préférence nationale, comme s'il existait dans ce pays une préférence étrangère. C'est là inverser la réalité, puisque les études scientifiques concluent tout en l'existence de discrimination. Et j'insiste bien sur le fait que les meilleures études scientifiques ne sont pas basées sur un ressenti ou sur une déclaration, mais bien sur l'interprétation de données. Donc il y a discrimination à la fois dans le droit, puisque beaucoup de métiers de la fonction publique sont fermés aux étrangers extra-européens, mais aussi de professions du privé, hein, il y a beaucoup de restrictions. Il y a discrimination dans les faits, hein, puisque, alors là, c'est un large corpus scientifique qui vous montre qu'il y a discrimination à l'embauche, discrimination dans les salaires. Pour vous en donner une illustration, l'INSEE va vous montrer qu'à diplôme, expérience professionnelle, âge, genre, situation familiale, lieu de résidence égale, les immigrés d'Afrique vont, en bas de l'échelle sociale, percevoir, par rapport à des autochtones, appelons-les comme ça, un salaire inférieur de 5%, et en haut de l'échelle sociale, un salaire inférieur de 20% quand ils sont d'origine maghrébine, et 30% quand ils sont d'origine d'Afrique subsaharienne. Donc, et puis par ailleurs, je ne sache pas qu'il y ait une surreprésentation des immigrés parmi les patrons du CAC 40 ou parmi les députés et les ministres. Donc ça, c'est un premier point. Alors là, c'est une inversion de la réalité. Donc ce n'est pas rien. Mais si on poursuit, l'antisémitisme. L'antisémitisme est consubstantiel à l'extrême droite. Si je voulais utiliser d'une formule, je dirais que l'extrême droite sans l'antisémitisme, c'est comme l'écologie sans le climat ou le capitalisme sans les entreprises. Je ne sais pas ce que c'est. On comprend très bien que pour des raisons électoralistes, il soit très payant de gommer cet aspect-là des choses. Mais enfin, on peut quand même rappeler que le fondateur du Front National a été condamné 5 fois à ce sujet et que, notamment, il a dit que l'occupation allemande n'était pas particulièrement inhumaine. Il y a un lien consubstantiel. Et puis, de toute manière, de la part d'un parti qui renvoie forcément les choses aux racines et à l'identité, il serait quand même assez comique de vouloir gommer cet aspect-là des choses. Donc ça, déjà. Puisque malgré tout, les discriminations ont l'inconvénient d'exister. Ça va être le troisième point. L'extrême droite n'a pas d'autre choix que de les imputer à une propension pathologique à s'apitoyer sur son sort, la victimisation. Or, la victimisation, c'est typiquement ce qu'elle fait, elle. Je vais en prendre une illustration, prouvée scientifiquement. Éric Zemmour se pose en permanence en victime d'une omerta médiatique. Or, le chercheur Nicolas Hervé a, par l'analyse statistique de toutes les citations à l'antenne des matinales radiophoniques, des JT et des chaînes de polémique en continu, il a pu établir que, sur une période allant du 30 août 2021 au 19 décembre 2021, Éric Zemmour était le candidat ou la personnalité politique la plus citée dans ces dites chaînes de polémique en continu, dans les matinales radiophoniques, et qu'il était le candidat d'opposition le plus invité, et plus que les 4 candidats de gauche réunis, dans les JT. On concédera quand même que pouvoir, pour une coqueluche des médias, se présenter comme victime d'omerta, c'est assez comique. Si ce n'était pas aussi tragique, ça serait très comique. Par ailleurs, l'extrême droite aime à se présenter comme défenseuse des libertés. Quatrième point. Or, à chaque fois qu'elle arrive au pouvoir, à minima, elle restreint l'indépendance des magistrats, elle restreint la liberté d'expression et elle attaque l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? Ça consiste à soumettre l'administration à la norme juridique. Personne n'est au-dessus des lois, même l'administration. Et d'ailleurs, en fait, la liberté qu'elle revendique et qu'elle clame haut et fort, c'est simplement la liberté de faire ce qui lui plaît et de dire ce qu'elle veut, c'est-à-dire n'importe quoi. Il est, en fait, l'amour de la liberté d'expression et de la liberté en général, ça se mesure toujours, non pas à la liberté dont on veut se voir gratifier, mais à la liberté qu'on concède à ses opposants, à ceux qui sont en désaccord avec soi. Et là-dessus, force est de constater que, vous voyez, ça va... À chaque fois que l'extrême droite est au pouvoir, il y a une criminalisation du désaccord qui est très forte. Et d'ailleurs, peut-être que les gens naïfs qui ont cru que l'élection de Trump serait anodine ont peut-être été détrompés, mais peut-être pas, justement. C'est bien pour ça qu'on est dans la post-vérité. Vu les attaques massives contre la science, où il est même dorénavant interdit de parler de climat, d'inégalité ou de genre. C'est ça aussi l'extrême droite. Et enfin, dernier point, mais je le développe vraiment dans mon livre et je ne peux que vous inviter à regarder la démonstration. Contrairement au discours que tient le RN sur lui-même, repris complaisamment par les médias, hein, qui sont dans une sorte de prophétie autoréalisante, le discours économique du RN n'est pas du tout en rupture avec 30 ans de politique économique. Notamment, il reprend dans ses préconisations phares, la même politique qui a été menée avec constance et à mon sens, et j'ai des raisons de penser, avec échec, c'est-à-dire la lutte contre le chômage qui passerait par la baisse du coût de travail. C'est la mesure phare qui n'a pas porté ses fruits. Hein. Ça fait 30 ans que les gouvernements de centre-gauche et de centre-droit mènent cette politique-là, depuis au moins Balladur en 1993, et avec une constance qui force le dépit. Et donc voilà, on va reprendre cette politique-là. Et à chaque fois que le RN prétend avoir un point de vue social, ça passe par une baisse de la fiscalité. Mais une baisse de la fiscalité qui va en fait renforcer les inégalités, qui concerne essentiellement en fait beaucoup de ménages les plus riches, et surtout qui va affaiblir la capacité de l'État à remédier à d'éventuelles défaillances de marché. Par ailleurs, le RN s'est opposé par son vote concret au relèvement du SMIC. Il s'est opposé au rétablissement de l'ISF et l'espèce d'impôt sur la spéculation immobilière qu'il a présenté, en fait, excluait 70% du patrimoine de l'impôt. Et notamment, les biens les plus spéculatifs, qui sont l'immobilier et les actions, sauf les actions des très, très grandes entreprises, étaient exclus de ce dispositif. Donc, en fait, ce que propose le RN, et je pense le démontrer de manière satisfaisante dans le livre, c'est qu'il se propose de consolider l'ordre économique établi, et pas du tout d'être en rupture. Et ça fait partie de... Donc, on est encore une fois dans l'inversion de la réalité. Le RN n'est pas social. Il a vraiment une grille de lecture que nous, économistes, on appelle néoclassique, quand il a vraiment une grille de lecture économique, parce qu'en fait, historiquement, les partis d'extrême droite, pour eux, l'économie n'est pas très importante. Ce qui est vraiment structurant et central pour eux, c'est la politique. Bon voilà, donc ça fait partie des inversions de polarité. Donc là, on en est déjà à 5 et il y en a plus en fait, mais je m'arrêterai là. Mais parce que je pense que ça, c'est important de bien voir que voilà, la post-vérité, c'est aussi ça, l'inversion de la réalité, et ce n'est pas neutre politiquement, l'inversion de la réalité. Je m'empresse de préciser que la vérité n'est ni de droite ni de gauche. Hein, la droite et la gauche, on peut les voir comme des raccourcis cognitifs, finalement. Présence d'informations limitées ou d'informations incomplètes, on peut vouloir entretenir une conclusion faute de mieux. Donc c'est là où on a des biais politiques qui peuvent dire bon, on va plutôt conclure dans ce sens ou plutôt dans celui-là. C'est un peu inévitable. Et d'ailleurs, le problème pourrait être le problème qui est celui du sectarisme en général, c'est-à-dire quand les réponses viennent avant les questions, et ça, personne n'a le monopole de ce genre de problème d'idéologie. Évidemment, les idéologues, vous en avez à gauche, au centre et dans la droite classique. Là, ce dont il est question, c'est de l'inversion de la réalité. Donc c'est extrêmement grave et ça présage de futures attaques contre la science et d'autres choses encore.
Oui, précisément, vous avez fait vous opérez une démonstration, à mon avis, très, très convaincante hein, sur aussi la convergence entre l'intérêt des puissances d'argent qui détiennent ces grandes plateformes et les effets des algorithmes en termes de confiance des agents dans la vérité, dans les institutions et dans la démocratie. Évidemment, tout cela a pour effet de renforcer ces fameux partis populistes. Et en effet, vous administrez énormément d'arguments pour le démontrer. Alors, est-ce que autre question, est-ce que nous sommes tous également vulnérables à la post-vérité? Parce qu'il y a un enjeu sur lequel vous revenez, c'est le fait qu'au fond, en fonction de la génération à laquelle on appartient, notre classe sociale, etc., nous ne sommes pas des différences culturelles, éducatives, nous ne sommes pas pas, également vulnérable à cette domination de la post-vérité. Alors, est-ce que vous pourriez revenir
là-dessus ? Tout à fait, il y a une grande hétérogénéité des individus. Donc les effets ne sont pas évidemment homogènes entre individus et à travers le temps, évidemment. Alors, ce n'est pas forcément lié à une fréquence d'usage des réseaux sociaux. Ce qui semblerait, d'après les preuves dont nous disposons, que les plus prompts à succomber finalement à la désinformation sont les personnes les plus âgées, qui sont aussi celles qui utilisent le moins Internet et les réseaux sociaux. Donc voilà, vous voyez, l'effet n'est pas forcément linéaire. C'est pas plus on passe de temps, plus on est influencé. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que les moins de 35 ans utilisent beaucoup plus les suggestions de l'algorithme. Et pour eux, c'est une table, j'ai quasiment jamais un URL directement sur Internet comme ceux de ma génération ou de la génération d'après. Donc il y a un effet de génération. Par ailleurs, ils ne vont pas sur les réseaux de leurs darons, hein, X et Facebook. Hein, pour eux, c'est des. Ils aiment les plus jeunes avoir ça comme des espèces de chambres à part, de chambres de père, hein, plus intimes. Donc il y a des différences d'usage et aussi par les classes sociales. Les classes sociales, de toute façon, populaires, par exemple, vont beaucoup moins s'informer sur les questions politiques, économiques et scientifiques que les autres. L'éducation va être un petit facteur de différence. Alors l'éducation ne protège pas contre l'erreur, mais un tout petit peu. Le plus grand facteur d'hétérogénéité, en fait, c'est une disposition psychologique qu'on appelle l'ouverture d'esprit active, qui consiste à avoir déjà un besoin de réflexion, un besoin de doute, de creuser les choses, de voir les choses, d'embrasser tous les points de vue, de bien se renseigner, d'essayer de comprendre pourquoi les gens sont en désaccord, quel est le nœud des problèmes. Donc, il y a des différences là-dessus. Il y a des natures qui saute beaucoup plus en conclusion, chez qui prédominent les besoins de sens, les besoins d'affection. Donc ces personnes-là vont aller beaucoup plus vite en besogne. Mais il y a des personnes aussi chez qui, plutôt, on va dire, prédomine le besoin de vérité. Ces personnes-là vont être moins sujettes. Encore une fois, c'est juste parce que en fait, j'ai fait beaucoup de présentations et donc je l'ai beaucoup dit, mais là, je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui. C'est que, en fait, les causalités que l'on dégage dans les sciences sociales sont des causalités statistiques. C'est jamais... La cause est suivie à 100% des fois par la conséquence. Évidemment, ce n'est jamais comme ça que ça fonctionne. Les choses sont complexes, mais en tout cas, l'apparition de la cause augmente les chances d'occurrence de la conséquence. Donc, c'est toujours une question de plus ou moins. Mais quand on parle de questions de plus ou moins à l'échelle des sociétés, ça peut faire tout basculer, et notamment les résultats d'élections. Et ce qui va se passer ensuite, au niveau juridique et au niveau social. Donc oui, il y a bien une hétérogénéité.
Alors, pour peut-être essayer d'envisager des perspectives plus optimistes, parce qu'en effet, là, ça, votre ouvrage invite plutôt à une forme d'inquiétude et d'inquiétude lucide face à ce phénomène favorisé par l'omniprésence des algorithmes dans notre vie. Est-ce que vous diriez que, au fond, la technologie numérique est en elle-même viciée, ou bien qu'elle aurait été, au fond, instrumentalisée par le technocapitalisme, hein, ou dévoyée par le technocapitalisme. Pensez-vous qu'il soit possible d'imaginer d'autres architectures techniques, une redéfinition de la conception des plateformes, pour corriger les dérives actuelles ?
Alors, déjà, je pense, par rapport au pessimisme du message, si on peut dire ça comme ça, je pense qu'au contraire, le fait de comprendre ce qui se passe permet d'agir, et déjà, ça apporte, je dirais en tout cas, ça soulage, parce que ça, quand on comprend, on n'est plus tellement démuni. Il y a une lumière qui se fait, et déjà, je pense que c'est très important, on n'est plus dérouté. Comprendre permet d'agir. C'est le premier point. Deuxième point, si on pourrait, en fait... résoudre les choses entre guillemets assez facilement. On pourrait imposer aux sociétés qui sont à l'origine de ces algorithmes d'adopter un statut d'entreprise à but non lucratif, typiquement une mutuelle. Hein, les mutuelles, vous avez des mutuelles dans le domaine de la santé ou autre, hein, qui brassent des dizaines de milliards de dollars, ça ne les empêche pas d'être bien gérées, et elles n'ont pas un objectif lucratif. Par ailleurs, c'est pour les décisions, en Assemblée générale, c'est le principe un individu égale une voix, et pas un dollar égale une voix. Parce que, en fait, il est là le nœud du problème. Ce n'est pas du tout ce que je fais dans le livre, ce n'est pas du tout du déterminisme technologique, ça serait absurde, mais c'est bien la technologie telle qu'elle est pensée, voulue, structurée par une logique économique. Je suis bien économiste. Et donc, c'est parce que les algorithmes sont conçus en vue de maximiser les bénéfices qu'ils ont un certain nombre de biais qui s'appuient sur les biais de notre cerveau, que nous partageons tous à des degrés divers, encore une fois. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer, sur cette structuration par les profits. Donc, ça peut être ça. Vous voyez, on n'a même pas besoin de renverser le capitalisme. Il suffirait d'imposer ce type de structuration. Les mutuelles existent depuis très longtemps et le système demeure capitaliste. En tout cas, c'est de salubrité publique. Hein, je dirais que finalement, le cybercapitalisme est un intelligence, ce que la démagogie est à la politique. Et donc, c'est gravement délétère. Il est temps d'ouvrir les yeux. En fait, le message que j'essaie d'adresser là, c'est ouvrez les yeux, prenez conscience de la gravité du problème. Alors, on peut voir aussi à beaucoup plus long terme un motif d'espoir dans le fait que nous sommes très loin d'un début de résolution de tous les défis écologiques auxquels nous sommes affrontés et que ces défis-là nécessitent, en fait, réellement, pour leur résolution, de transformer de fond en comble notre modèle économique. Et donc, finalement, ces deux combats-là se rejoignent. C'est... Bon, voilà, donc on peut voir là-dedans dans un motif d'espoir, mais vous voyez, encore une fois, il n'est même pas nécessaire de changer de système économique. On pourrait juste faire ça, mais quand je dis « on », évidemment, m'exprimons depuis la France, notre pouvoir sur les entreprises américaines est faible, et donc il faut qu'il y ait un très large débat dans toutes les sociétés.
En tout cas, pour conclure, je pense que vous montrez, à mon avis, l'urgence absolue, justement, de lutter contre les effets délétères de la privatisation de l'espace numérique, au fond, et en effet de travailler sur les modalités pour neutraliser en fait cet espace ou en faire un véritable espace public, plutôt qu'au fond l'espace dans lequel nous sommes en quelque sorte les marionnettes d'intérêts qui nous dépassent, sans même nous en rendre compte, ce qui est le plus haut niveau de la manipulation qui soit. Donc j'invite effectivement tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent à prendre connaissance de votre ouvrage, qui offre encore une fois une démonstration magistrale de ce qu'est l'ère de la post-vérité et qui, en effet, je vous rejoins, fournit aussi peut-être le début d'une réflexion sur comment nous en prémunir ou nous prémunir de ces effets. Michaël Lainé, je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour la qualité des arguments que vous produisez. Merci beaucoup.